Soirée spéciale donc sur France Culture. Depuis un peu moins de 4 heures maintenant, le président de la République débat avec des intellectuels à l'Élysée. Et c'est en direct sur France Culture. On va revenir évidemment largement sur ce qui ressort déjà de ces échanges et notamment la réponse du président après les violences de samedi. Réponse qui vient compléter les mesures de fermeté et le limogeage du préfet de police de Paris annoncé par Édouard Philippe un peu plus tôt. Les consignes étaient inappropriées pour le Premier ministre. À suivre aussi dans ce journal, la fin de la chasse à l'homme à Utrecht, aux Pays-Bas, et puis ces toits arrachés, ces maisons englouties au Mozambique après le passage ultra-violent d'un cyclone. La riposte de l'exécutif après le nouveau saccage des Champs-Élysées en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi. Le président de la République dénonce sur France Culture à l'occasion de ce débat avec des intellectuels une émeute des casseurs.
Il y a des manifestations, il y en a dans toutes les démocraties. Et la manifestation, elle est protégée constitutionnellement, je crois qu'on y tient tous, parce qu'elle est l'expression libre mais respectueuse de la liberté des autres, d'une opinion. Mais moi, je ne confondrai pas la manifestation et ce qui s'est passé samedi, comme ce qui s'est passé parfois dans d'autres villes. Ça s'appelle une émeute de casseurs. Et il faut faire ce distinguo de manière absolue. Là, maintenant, on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, qui n'a pas été appliqué samedi, c'est d'adapter le régime d'ordre public. Et donc la réponse est très différente de celle apportée à une manifestation. Elle sera encore renforcée, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement.
Emmanuel Macron, et on reviendra sur les autres réponses du chef de l'État à la fin de cette édition. Dans la même veine, le Premier ministre, lui, pointe des dysfonctionnements. Et pour les sanctionner, il y a d'abord une tête qui tombe, Florence Turm, celle du préfet de police de Paris.
Le Premier ministre a repris à son compte les critiques formulées par les forces de police présentes sur le terrain samedi. Pas assez de mobilité, pas assez de réactivité et des consignes inappropriées, souligne Édouard Philippe, notamment pour réduire l'usage des balles de défense. On le comprend entre les lignes, la décision de limiter les LBD ne venait donc pas du ministère de l'Intérieur, mais plutôt du préfet de police de Paris. Michel Delpuech se retrouve ainsi limogé, remplacé par Didier Lallemand, l'actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. L'acte 18 des Gilets jaunes aura en quelque sorte constitué le coup de grâce pour Michel Delpuech, donné régulièrement partant pour sa gestion de l'ordre public, mais plus encore pour l'affaire Benalla. En dehors de la sanction politique, Édouard Philippe a annoncé hier l'intention du gouvernement d'interdire chaque fois qu'il le faudra les manifestations dans les quartiers les plus touchés, les Champs-Élysées, la place Péberlan à Bordeaux, celle du Capitole à Toulouse, interdiction qui pourrait donc entrer en vigueur samedi prochain dès lors que les services de renseignement suspectent la présence de casseurs dans les rangs du cortège, ce qui était d'ailleurs le cas en amont du rassemblement du week-end dernier. Des casseurs, des émeutiers qui n'ont rien à voir avec la grande majorité des Gilets jaunes, insistait Édouard Philippe en invitant ces derniers à prendre leur distance avec eux, leur responsabilité aussi, avec également une mise en garde sévère à l'adresse des personnalités publiques qui encourageraient les violences. La justice sera à l'avenir systématiquement saisie.
La justice déjà bien occupée avec les Gilets jaunes après ces dernières violences. 58 personnes sont passées en comparution immédiate aujourd'hui à Paris. Des audiences pour certaines mouvementées, Roméo Van Maastricht.
Même profil pour la plupart des prévenus. Ils touchent le RSA, ils n'ont pas de travail et participaient pour la première ou la seconde fois à des manifestations de Gilets jaunes. L'un d'entre eux a tenté de devenir conducteur de bus, sans succès. Il vit chez ses parents, sans compagne ni enfant. Il a lancé des projectiles et des bâtons de bois sur les forces de l'ordre. L'autre n'a que 30 ans, 4 enfants, sans domicile fixe, un t-shirt Che Guevara. Sur les Champs-Élysées, il a ramassé des vêtements de marque H&M pour ses filles dans les débris des vitrines brisées. L'air penaud, ils soufflent leurs excuses à demi-mot. « Je ne veux plus jamais manifester, c'est terminé », murmure le premier. « Je suis désolé, ça me servira de leçon », ajoute le deuxième. Vous voyez des vitrines saccagées et des habits au sol. « À aucun moment vous ne faites le lien », assène la présidente, ton cassant. « Arrêtez de me raconter n'importe quoi ». Une des avocates se risque à la métaphore. Quand mon client lance un projectile, ce n'est pas le policier qu'il vise, mais la société. Pour lui, elle est la cause de tous ses soucis. Et puis soudain, la tension monte d'un cran lors du délibéré. 1 et 3 mois de prison ferme. Les deux prévenus repartent les menottes au poignet. Dans la salle, le public commence à scander des chants d'encouragement. Les applaudissements couvrent les réprimandes de la présidente. Justice bourgeoise, vous n'entendez pas la voix du peuple, protestent les proches des prévenus. Ce à quoi la magistrate répond, ce n'est pas ici qu'elle s'exprime.
Roméo. Roméo Van Maastricht sur France Culture. Et on apprend ce soir chez nos confrères de France Info que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Christophe Castaner et Nicole Belloubet, seront auditionnés la semaine prochaine par la Commission des lois de l'Assemblée nationale à propos de ces violences pendant les manifestations. Après l'attentat dans la prison de Condé-sur-Sarthe, 5 détenus sont en garde à vue, soupçonnés de complicité avec le prisonnier radicalisé qui a violemment agressé 2 surveillants il y a 2 semaines. Journée de grève demain en France, mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats. La CGT, FO, Solidaires, l'UNEF et l'UNEL dénoncent une précarité toujours plus grande et des réponses inadaptées. Peut-être le début d'une convergence des luttes entre syndicats et gilets jaunes, Marie Viennot.
Si le mouvement des Gilets jaunes n'a pas encore fait la jonction avec les syndicats, c'est qu'il y a de part et d'autre de fortes résistances. Côté Gilets jaunes, la méfiance envers toute forme d'organisation pyramidale et de rigueur. Du côté des syndicats, c'est plus ouvert. Début décembre, ils ont tous, à part Solidaires, qui le jugeait trop tiède, signé un texte commun exigeant que les problèmes soulevés par les Gilets jaunes trouvent un débouché concret. Pouvoir d'achat, salaire, transport, accessibilité des services publics, fiscalité, beaucoup de revendications sont communes. Impossible en revanche pour les syndicats de se risquer à cautionner la violence, les dérapages racistes ou homophobes constatés ici et là dans les manifestations ou sur les ronds-points. Cette crainte demeure, mais les syndicats ne peuvent ignorer une mobilisation sociale qui dure et reprend bon nombre de leurs arguments. En février, la CGT et Solidaires ont donc appelé à la convergence des luttes et une journée d'action. Cette fois, Force ouvrière les rejoint, ce qui est un événement en soi, FO ne manifestant que très rarement avec la CGT. Nous nous mobilisons car nous ne voulons pas être spectateurs ni caution de décisions qui pourraient être prises en matière sociale à l'issue du grand débat, a justifié le secrétaire général de FO Yves Verrier. Côté syndicat, les mains tendues sont donc plus nombreuses et côté gilets jaunes, il y a, après les débordements de samedi à Paris, tout intérêt à relancer la mobilisation autour des revendications que l'on partage avec d'autres organisations, même syndicales.
Les explications de Marie Viennot. Attentat terroriste ou différend familial. Le mobile reste flou à Utrecht, aux Pays-Bas, où un homme a ouvert le feu dans un tramway ce matin. Il y a au moins 3 morts et 9 blessés. Après des heures de recherche, Angélique Boin, le suspect a été arrêté.
L'homme arrêté cet après-midi est un habitant d'Utrecht, d'origine turque. Il a été repéré dans un appartement du nord de la ville, non loin de l'endroit où la voiture qu'il aurait empruntée après la tuerie avait été retrouvée. Épilogue d'une longue traque qui a donc été rendue possible par la diffusion de sa photo sur les réseaux sociaux. Âgé de 37 ans, Gökmen Tanis est connu de la police, mais d'après les premiers éléments, pas pour sa radicalisation. Il est présenté par les médias ici comme un délinquant de droit commun et le parquet dit ce soir ne pas écarter la piste d'un différend familial. Il faut donc rester prudent sur ses motivations. Le quartier dans lequel a eu lieu l'attaque a repris vie. Ce soir, et le soulagement est manifeste sur les visages. Pendant de longues heures, après avoir reçu par SMS une alerte de confinement, les habitants sont restés terrés chez eux. Les commerces, les bars et les écoles ainsi que toutes les mosquées du quartier ont été fermées.
Angélique Boin, envoyée spéciale de France Culture à Utrecht, aux Pays-Bas. Oyub Titiev, enfermé, le militant russe des droits de l'homme est condamné à passer 4 ans dans un camp pour possession de drogue. Il dénonce une accusation montée de toute pièce par les autorités. Déjà 182 morts au Mozambique, mais peut-être plus d'un millier, c'est la crainte du président mozambicain. Le cyclone Idai a tout dévasté sur son passage en fin de semaine dernière, notamment à Beira, la deuxième ville du pays. Caroline Aga de la Fédération internationale de la Croix-Rouge est sur place.
La situation est très difficile. Hier, nous avons survolé la ville en hélicoptère et nous avons pris la mesure des destructions. De nombreuses maisons sont détruites. Les toits se sont envolés, les arbres arrachés, les poteaux électriques abattus. Il n'y a pas d'électricité et la ville est privée de téléphone. On nous a dit que la situation à l'extérieur de Beira est encore pire. Nous n'avons pas pu y accéder pour l'instant, car toutes les routes sont coupées. Le seul moyen de pouvoir s'y rendre, c'est en hélicoptère. Et c'est ce que toutes les ONG humanitaires, comme la Croix-Rouge internationale, essayent de faire actuellement.
Caroline Aga de la Fédération internationale de la Croix-Rouge avec Omar Waman. Le temps de demain, ça s'annonce nuageux pour une bonne partie de la France. Seul le quart sud-est aura droit à un soleil généreux. À la mi-journée, les températures tournent globalement autour des 10 degrés.